Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être en notre compagnie en cette fin d'après-midi sur Radio Foot International, votre émission donc consacrée au ballon rond. Et pour commencer, eh bien nous évoquerons le Real Madrid qui recommence à faire peur. C'est ce qui se disait en tout cas dans le vestiaire melengue après la nette victoire des joueurs de la Casablanca dans le derby madrilène. Face donc à l'Atlético en perdition en milieu de classement il y a à peine un mois, l'équipe de Ramos et Benzema est revenue sur la deuxième marche du podium, en écartant l'Atlético pour se placer à 6 points du Barça, tenu en échec à Bilbao. Le Real peut-il encore rêver du titre de cette Liga ? Les Blues éjectés du Big Four de la Première Ligue. L'équipe emmenée par Eden Hazard et Gonzalo Higuaín a sombré sur la pelouse de Manchester City, encaissant 6 buts et laissant son entraîneur Maurizio Sarri dans un abîme de questions. Pendant ce temps, City et Liverpool ne se quittent plus et partagent toujours la tête du championnat. Le PSG a besoin d'un marabout pour lutter contre les mauvaises fées qui jouent contre son club en ce moment. Samedi, la petite victoire contre Bordeaux a surtout coûté aux Parisiens deux joueurs, Edinson Cavani et Thomas Meunier, forfait pour le match à Manchester demain. Old Trafford, théâtre des rêves ou des cauchemars du PSG. En tout cas, Thomas Tuchel va devoir avoir beaucoup d'imagination pour mener ses troupes. Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets, Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Philippe Doucet de Canal+. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Et puis Salim Bongali d'RMC Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et tous.
Il s'en passe des choses en Angleterre.
Ah, beaucoup de choses.
Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Radio Foot, c'est parti.
Toni Kroos con el centro, Ramos de cabeza. El cuerpo Correa, Angelito, qué buena pelota, se viene Antoine habilitado, el empate Antoine, el empate. ¡Gol! Empieza el camino, Ramos le pega a Ramos. Vuelta y de primera con Modric, ataca el Real Madrid con 5, Gareth Bale sin marca, le pega del Real Madrid a 16 del final del partido, Gareth Bale 3-1.
De test en test, les Merengues eh bien passent avec facilité les épreuves. 2 réussies sur 3, c'est celle dont on avait parlé la semaine dernière, vous vous en souvenez, en disant qu'il y avait une semaine capitale pour cette équipe de la capitale espagnole. 2 tests réussis sur 3 donc, le nul ramené du Camp Nou, c'était en Coupe du Roi, et puis cette victoire en championnat dans le derby madrilène. Les voilà dauphins des Blaugrana, les Merengues, qui l'auraient cru alors qu'il y a quelques semaines encore, eh bien ils étaient croyait-on en perdition, en tout cas presque en milieu de tableau. Le troisième test de cette longue semaine sera bien sûr en Ligue des Champions à Amsterdam. Le Real a donc gagné un match facilement dominé face à une équipe de l'Atlético plutôt apathique, on y viendra. Le but de Gareth Bale était le 100e du Gallois sous le maillot du Real et cela illustrait bien la réussite de cette équipe. Écoutons Thibaut Courtois qui confirmait la bonne passe de son groupe au micro de Pierre Chaperon.
Tu sais que c'est un derby, tu sais que Atlético joue bien à la maison, qu'il casse pas beaucoup de buts, que quoi, c'est toujours un match difficile de gagner. Et si tu gagnes 1-3 avec un bon jeu, avec des beaux buts, ben c'est fantastique. On a 5 points de Barça. C'est bien toujours de mettre la pression de derrière et se battre jusqu'au final. Tu sens que tout le monde a l'expérience, tu sens que tout le monde est tranquille, on se sent sûr de nous-mêmes. Je crois qu'on a joué un match très très complet.
On se sent sûr de nous-mêmes, un match très complet. L'entraîneur Santiago Solari a même dit « Je pense que cette équipe est la plus forte de cette saison, ou en tout cas depuis le mois de décembre, c'est-à-dire depuis qu'il est arrivé. » Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ?
Qu'il soit le plus fort depuis décembre, oui, c'est à peu près probable, oui, parce que le Barça.
Et de la saison même.
Le Barça est un peu moyen. Bon, on saura à la fin de la saison. Sur 38 journées, il y a jamais de miracle.
Hein. Non, mais par rapport au spectacle toujours, produit, pas seulement le résultat.
Oui, oui, non, le Real est revenu à un très bon niveau. Il a été très bon au Wanda Metropolitano. Franchement, ils ont fait un très bon match samedi. Ça a été très cohérent du début à la fin. C'était la meilleure équipe sur le terrain, c'est donc une référence parce qu'ils étaient quand même sur le terrain de l'Atlético, c'est pas rien. Donc c'est un Real qui ressemble à celui qu'on a vu entre février et mai de l'an dernier. Et comme par hasard, nous sommes dans la période de février à mai de l'an dernier.
C'est bizarre,
c'est bizarre. Hein. C'est bizarre hein.
Alors c'est bizarre, mais ils prétendent vouloir tout gagner cette saison et c'est vrai qu'ils sont encore en piste dans les trois compétitions que sont la Liga, que sont la Coupe du Roi et évidemment la Ligue des Champions. Mais Salim, il y a quelque temps, on se disait pour eux c'est perdu la Liga, ils vont compenser par les deux autres coupes, finalement peut-être pas.
C'est vrai qu'on se posait cette question-là et on se disait cela même très clairement. Après, le Barça, pendant le même temps, a fait donc ce nul face à Bilbao, a coincé un petit peu hein, sur certaines rencontres avec des buts à l'arraché, avec aussi une dépendance. Bon, vous allez me dire, quand vous avez l'un des deux meilleurs joueurs du monde, c'est facile de dépendre de lui. Et Messi a tant sauvé cette équipe encore ces dernières semaines. Mais c'est vrai que si Messi est un petit peu moins là ou absent, hein, il l'a été récemment.
Et bien, pas tout que lui coup, en plus dans cette équipe, malheureusement.
Exactement. Mm-hmm. Et bien tout d'un coup, le Barça est moindre et le Real, en revanche, montre une puissance vraiment impressionnante. On a vu Benzema récemment qui avait été excellent avec cette équipe du Real.
Et qu'il l'est toujours.
Et qu'il est toujours. Casemiro qui a prouvé, notamment face à l'Atlético.
Quel geste, une espèce de bicyclette.
Il est capital, évidemment, dans ce poste de numéro 6. Vous savez, il y a d'autres clubs qui voudraient avoir des numéros 6. Et puis,
Suivez mon cœur.
Je sais pas qui.
Non, je sais pas de qui je parle. Gareth Bale, évidemment. Enfin bref, les cadres, comme Philippe l'a dit, les cadres sont de retour. Comme par hasard, au mois de février, on dit souvent que cette période est clé pour les grandes équipes en Ligue des Champions, mais pas que au final.
Marc.
Je rejoins mes deux camarades. Vous savez, il y a des moments précis où les très grands clubs apparaissent et les petits disparaissent. Malheureusement, Paris aujourd'hui s'effondre devant les grandes échéances. Non, mais c'est très important parce qu'on va en parler. Il faut me l'expliquer pourquoi les grandes échéances, la plupart des joueurs du PSG disparaissent. Eux, c'est le contraire. Eux, pendant 6 mois, ils n'en ont rien à faire. Modric, on nous disait, attendez, Ballon d'Or, mais vous savez, il est fatigué, il y a des problèmes dans son pays. Modric, mais il est à la rue. Varane, mais c'est fini. Oui, il fallait digérer. Et là, on se rend compte que finalement, Ramos, il n'est pas si mort que ça. Ramos, il faut marquer des buts, il continue à marquer des buts. Et finalement, le jeune, l'apport personnel de Vinicius, qui est quand même très important et primordial aussi dans cette équipe, qui fait la différence. Et un Benzema qui est étincelant, il n'en fallait pas plus pour aujourd'hui penser que ce Real-là n'était pas prêt peut-être à un moment donné, mais en tout cas, eux, ils se préparent déjà pour les 4 ou les 5 derniers mois. Mais on pourra reparler de la saison précédente ou la saison d'avant, parce que sur les 3 dernières saisons, c'est pareil, oui, c'est une machine qui se remet en route,
c'est ça?
Ouais, ils sont conditionnés pour se dire, mais nous, à partir de février, mais c'est là que ça nous intéresse.
Malgré
presque.
Tout, Marc, on se posait quand même la question légitimement en début de saison, parce que Cristiano Ronaldo était
exactement.
Plus là. Voilà. Et comme on
ça se tenait.
Et comme, en plus, on voyait un Real qui était mi-figue, mi-raisin,
poussif.
On disait, finalement, peut-être que sans Cristiano, cette équipe du Real n'est plus la même. Force est de constater que c'était pas totalement le cas, en fait.
Finalement, Antoine,
peut-être que cette équipe du Real, elle avait besoin tout simplement de toucher le fond pour rebondir et elle a touché le fond contre Eibar. Elle a perdu contre Eibar 3-0 pour la 13e journée.
Ils sont descendus très bas.
Après, il a fallu digérer non seulement le départ de Ronaldo, mais aussi le départ de Zidane, la fausse arrivée de Lopetegui.
4e en Espagne, c'est grave, c'est vrai.
Pour le Real,
non, il a été moins bien placé.
Qu'est-ce que c'est pour Monaco?
6e peut-être.
Oui, il a été 6 ou 7e.
C'est vrai que l'exemple d'Eibar, c'est vrai qu'un Real qui perd 3-0 face à Eibar, cela venait d'arriver à peine, hein, quelques rencontres après son arrivée. Forcément, c'était un coup particulier.
Et les mêmes joueurs.
Avec les mêmes joueurs, il est vrai. Après, Marc l'a très bien dit, Philippe aussi. À un moment donné, il y a une deuxième partie de saison et eux, ils savent la gérer.
Est-ce que ce qui était marquant aussi au cours de cette victoire, c'était l'esprit qu'on a vu, l'esprit de groupe finalement qui a l'air d'être ressoudé parce qu'on disait que peut-être que dans le vestiaire il y avait quelques dissensions et tout. Et là, on a l'impression qu'ils se sont retrouvés aussi.
Je pense aussi qu'ils sont capables à un moment donné de faire les efforts ensemble, peut-être d'être égoïstes à un certain moment de la saison, mais c'est surtout dans l'état d'esprit puisqu'il y a une très bonne première période et la seconde période il y a un peu l'Atlético qui a un peu du mal, qui veut essayer de pourrir le match en faisant les voyous, mais les voyous il y en a de l'autre côté aussi, donc en fait ils sont mal barrés quoi. Non mais c'est le problème,
ouais,
c'est
qu'il y a énormément de cartons jaunes dans la partie.
Ouais, mais après quand on, vous savez, souvent on veut faire les voyous mais on en est pas là. Par contre, ils sont tombés sur peut-être plus voyous qu'eux et à l'arrivée ils ont gagné sur tous les terrains, c'est-à-dire sur le combat physique, sur le combat mental et dans le jeu ils ont été très bons. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Benzema aujourd'hui à ce niveau-là devant sur le front de l'attaque avec un Vinicius qui, parce que qu'on commence à le connaître, mais ça passe toujours, quoi. Il fait quand même souvent la différence. Et ça, c'est très important. Et puis, l'apport des cadres, on parlait de Varane qui revient plutôt pas mal. Et puis, surtout Ramos qui est toujours là, qui marque ses fameux buts. Il en marque énormément.
Il est incroyable.
À l'arrivée, ben,
c'est votre, une quinzaine de buts, hein.
Votre Ramos est là. Et ben, finalement, vous savez quoi? Il y a l'échéance, Ligue des Champions. On nous a pas pris au sérieux. Et c'est vrai qu'on disait, ils sont morts pour le championnat. Ils sont morts pour ceci. Ils sont morts pour cela. Eux, on va vous montrer qu'on n'est pas morts. Ça, c'est la marque des grands joueurs.
Ils sont vivants.
Et puis Gareth Bale aussi.
Ah ben lui c'est toujours pour moi c'est une référence.
Mais bon. Qui a passé un mois sans jouer en janvier, qui a perdu sa place, qui fait des bouts de match et qui marque. Il a encore marqué là contre l'Atlético, un but absolument magnifique. Bref, il peut compter lui aussi, même si c'est à la marge.
Et globalement, cette équipe du Real, il y a deux mois lors du tirage au sort des huitièmes de finale de Champions face à l'Ajax, on disait non pas que le Real n'était pas favori, si le Real était évidemment favori, mais que ça pouvait être relativement serré entre l'Ajax et le Real. Alors aujourd'hui si, on peut le dire deux mois après que ça reste serré. Mais il y a quand même un avantage Real.
Mais il y a deux mois entre le tirage au sort et le premier et
les divisions de finale.
Et vous êtes aperçu que plein de hiérarchies ont changé.
Exactement.
Dans les
de qui vous parlez-vous?
Non, mais je ne sais pas pourquoi il y a des les bookmakers.
C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est souvent ce qu'on dit.
Les bookmakers changent tout.
On dit au moment du tirage que dans deux mois,
la réalité n'est pas la même chose. Bien sûr.
Et ben là, on le voit.
On a plusieurs exemples.
Le Real, il y a deux mois, c'était une équipe moyenne plus entre guillemets.
Le Real, ça fait trois années qui font le coup. Il y a une année où ils ont fait un bon championnat. Une année.
Et où ils ont gagné.
La deuxième de Zidane.
Et où ils ont gagné.
C'est tout.
Voilà.
Toutes les autres années, c'est à chaque fois. Ça commence en février.
Retard à l'allumage. L'Atlético, alors, face à eux, eh bien, on va dire une pâle prestation. Coup d'arrêt, surtout de la série d'invincibilité. Déjà, il y avait eu une défaite la semaine dernière. Et puis là, deuxième consécutive. Guerre de réaction, surtout sur la pelouse, trouvait-on, sauf peut-être une attitude de voyou, comme dit Marc. Et Diego Simeone a reconnu eh bien, que l'adversaire leur avait été supérieur.
Bien sûr, aujourd'hui, c'est une défaite que nous méritons. Nous devons nous améliorer. Nous devons nous relever et affronter le match de samedi prochain avec beaucoup d'enthousiasme.
Vous avez dit que vous n'aviez pas perdu à cause de la VAR, alors pourquoi?
Parce que notre adversaire était meilleur.
Alors voilà, Diego Simeone un peu excédé vraisemblablement, qui s'en va de la conférence de presse alors qu'il avait déjà dit, hein, pour moi, la vidéo, l'arbitrage, l'assistance vidéo ne nous a pas spécialement défavorisés, j'aime pas en parler. En tout cas, il était excédé à cause de quoi, Marc? À cause finalement de la non-réaction de ses joueurs, de la défaite, de la déroute?
Puis de voir aussi qu'en face, il y a une équipe qui revient, parce que c'est quand même le tournant de la saison, on peut se dire finalement.
Oui, c'était dauphin depuis pas mal de semaines.
Exactement, et puis il y a peut-être une passation qui se fait à un moment-là, ça fait quand même de bonnes années qu'on dit avec Diego Simeone, c'est très dur, les joueurs font beaucoup d'efforts. Là, ils sont tombés sur un gros morceau, donc j'espère qu'il n'y aura pas de cassure pour l'Atlético. En tout cas, Griezmann, lui, est capable de marquer encore des buts, encore et toujours. Mais chaque fois dans des conditions, dans des situations pas évidentes, faut tirer un grand coup de chapeau à ce joueur-là qui marque énormément, mais il n'est pas souvent gâté, quoi. Il faut faire beaucoup d'efforts quand même.
Philippe, ils étaient sur une très belle série, et puis là, on a l'impression, quand c'est des grands rendez-vous, ils s'écroulent un peu.
Bah, de toute façon, l'Atlético est dépendant de ce que font le Real et le Barça. C'est-à-dire que si ces deux équipes sont à leur meilleur, l'Atlético est derrière, ce qui est tout à fait logique. Ils ont la moitié de leur budget, hein, à peu près. Faut quand même dire les choses. Pas la moitié, j'exagère un petit peu, mais pas loin. C'est à peu près ça. Donc, s'ils travaillent très bien, si le Real et le Barça sont à leur meilleur, l'Atlético sait qu'ils sont derrière. Et là, cette année, je pense que c'est la déception de Diego Simeone. Elle était liée peut-être en partie au pénalty qui se discutait singulièrement, et c'était le deuxième but, donc c'était important.
Oui.
Mais je pense plus au fait que maintenant il se retrouve derrière les deux, et qui donc, il sait que le titre est à peu près perdu, alors qu'il voyait le Barça plafonner, il voyait la fenêtre s'ouvrir, il voyait une opportunité d'être à nouveau champion, ce qu'il a été il y a 3-4 saisons. Mmh. Et bon, bah, la porte s'est refermée, là, très clairement, il ne reviendra pas.
Non. Alors malgré tout, il faut rappeler que cette année, le Real, par exemple, en championnat, a perdu 6 fois quand même. Hein, là où l'Atlético n'a perdu que 3 fois. Donc effectivement, c'est là aussi le regret. Alors même si il reste encore beaucoup de journées, évidemment, en Espagne, mais de se dire qu'on a perdu 2 fois moins, que ça joue parfois sur des détails, et malheureusement, ces détails sont... vont pas dans le bon sens pour l'Atlético, donc c'est peut-être ça aussi que Simeone peut regretter aujourd'hui.
Antoine?
Oui, enfin, Philippe en parlait, il y a deux faits de jeu qui ont pu le rendre fou, Diego Simeone, c'est l'égalisation refusée à Morata à la 54e minute, pour un hors-jeu qui n'était pas forcément évident, et puis il y a un
pénalty... où il y a hors-jeu.
Il y a hors-jeu.
Et donc, ça me tue comme hier soir, il y a un pied. C'est pas beaucoup, mais c'est en jeu.
Non, mais nous, sur, je pense
c'est
que
ça qui est...
Antoine fait allusion au fait que les images que, dont on disposait, nous, on avait l'impression qu'il n'y avait pas hors jeu, mais en tout cas,
dans
ça a été.
En réalité, il y a hors
jeu. C'est pas mal, hein. C'est une discussion radiophonique. Ah oui, non, mais... Sans images, et malgré tout, on n'arrive pas à savoir si hors jeu.
Alors, la ligne est là. Exactement.
Et puis, c'est la seule radio qui a des images.
Et puis, ce pénalty oublié pour l'Atlético, ça fait beaucoup. Et puis, ça fait une première défaite à domicile cette saison. Bref, c'était pas forcément le bon adversaire contre qui, contre qui encaisser ce genre de fait de jeu.
Alors justement, le Barça, lui, a eu du mal. Hein. On a bien vu qu'ils ont donc fait match nul contre l'Athletic à Bilbao, et équipe qui est seulement 13e de la Liga, mais résultat de nul et en une semaine, hein, puisque c'était le nul face au Real. Et puis, il y avait...
Trois nuls même, parce que la semaine dernière contre Valence également.
Pardon, oui, deux en Liga et un effectivement en Coupe du Roi. Ça plafonne, Messi revenait de blessure. Alors, ils ont eu un super Ter Stegen dans les buts, et heureusement. Mais finalement, à vous écouter, Philippe, en tout cas, on a l'impression que le titre se disputera de nouveau, en mano à mano, entre Real et Barça. Ouais, c'est ce que vous voyez.
De toute façon, ce sera Barça ou Real. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas souvent de discussion. Mais là, maintenant.
Si l'Atlético, de temps en temps, s'est glissé même parfois deuxième.
Bien sûr, ils ont même été premiers. Mais même maintenant que l'Atlético est derrière les deux premiers, ils ne les reverront plus. Il y a un des deux qui va finir devant, c'est clair. Maintenant, est-ce que le Barça est en train de plafonner? On verra. C'est très difficile de il faut se méfier des impressions. On a eu l'impression en Angleterre que Manchester City en décembre était mort.
Totalement.
Bon, aujourd'hui, ils surclassent tout le monde. Donc, faut se méfier quand même des pertes de concentration, des pertes d'envie, des faiblesses physiques aussi parfois, des petits trous qui font qu'aujourd'hui, le Barça, très, très honnêtement, sur les deux derniers matchs, ils sont très, très poussifs. Très, très poussifs.
Mais ils perdent pas.
Voilà. Et je pense qu'ils sont, les 6 points, ils sont parfaitement capables de les garder jusqu'au bout, bien sûr.
Malgré tout, on le voit sur cette saison, de la part du Barça et du Real, il y a quand même beaucoup d'absence, malgré toutes ces deux équipes, puisque, encore une fois, je vous le disais, le Real 6 défaites, le Barça 3 défaites.
Ah, mais la Liga est compétitive, hein. Il y a des adversaires, ça joue, hein.
Mais totalement. Non, bien sûr.
C'est un peu en dessous.
Ça veut dire quoi, ça?
Non, Philippe, la Liga, c'est le meilleur championnat du monde en qualité.
Parfois ces dernières saisons où il y avait quand même un Barça et Real et l'Atlético qui étaient très très au-dessus et qui au final n'avaient pas une concurrence à part ces trois-là. Là où cette année on a évoqué Eibar, d'autres défaites également, et ça donne au final
les équipes de Séville, de Valence cette année,
évidemment,
et
on le voit en Europa League évidemment. Donc des absences qui fait que il n'y a pas une régularité absolue de ces deux équipes.
Il y a moins d'écart, que les autres années. Ouais.
Donc 6 points, en sachant qu'il y aura aussi un match retour à Bernabéu quand même, un Real Barça, ça pourrait potentiellement donner 3 points.
Ouais, le 2 mars.
Rien n'est fait.
Effectivement. Et en plus, ces trois équipes jouant la Ligue des Champions, eh bien, on verra aussi ce qu'elles y laissent en route, hein, parce que ça sera évidemment important. Voilà pour ce qui est de la Liga.
Manchester City's 6th goal. It's a tennis score. Game set match. Jeu, c'était match. Avantage. Service gagnant. Bernard, s'il vous plaît. 15 égalités, 30 et 40, avantage, coup droit lifté, revers tie-break, effilé.
Non, on parle bien de football, mais c'est vrai.
C'est que
ouais, Julien Magoarou, oui, voulait faire plaisir à Philippe Doucet notamment. Et c'est vrai qu'un 6-0, eh bien, c'est plutôt un résultat de tennis avec des Blues donc en déroute sur la pelouse de Manchester City. Hier, ces joueurs de Maurizio Sarri ont été humiliés. Ils ont encaissé leur pire défaite depuis qu'ils disputent la Première Ligue, c'est-à-dire une trentaine d'années, depuis 1992. 6-0 qui dit tout de la déroute, donc, et surtout de la force de leur adversaire, on va y venir après. En tout cas, écoutons Maurizio Sarri, à qui on a demandé d'essayer d'expliquer cette défaite. Il était plutôt dépité.
Aujourd'hui, je n'ai pas vu mon football. Au début de la saison, cela a pourtant bien marché. Maintenant, nous devons comprendre les raisons qui ont fait que cela n'a plus fonctionné. Nous devons comprendre ces raisons et ce n'est pas facile. Au début, nous jouions mieux à l'extérieur qu'à domicile. Maintenant, nous jouons mieux à domicile qu'à l'extérieur. Quelque chose est en train de changer. Je ne suis pas encore capable d'identifier la raison, mais nous devons travailler en ce sens. Mon but est de pratiquer mon type de football, pas de changer avec un autre style de foot. Mais en ce moment, nous pratiquons pourtant un autre style que le mien.
Avant que je vous demande, Philippe et Salim, les raisons de cela, je voulais demander à Marc. Marc, oui. Comment des joueurs, finalement, peuvent se retrouver à encaisser 6 buts dans un match, comme on l'a vu, et pratiquement, c'était combien à la mi-temps? 4, hein, si je ne me trompe pas.
Je sais pas, moi, une fois, j'en ai pris 8. Donc,
donc vous pouvez nous expliquer.
Ouais, mais vous aviez fait exprès.
Mais bon, j'aurais bien aimé. Non, c'était même pas le cas. Non, ah mais bon, je pense que non, même pas. À l'époque, on nous a dit
qu'on
voulait gagner. On voulait laisser Lyon prendre la Ligue Europa à l'époque. C'était totalement faux. Je pense qu'on. C'est vrai en plus. Je pense qu'on.
C'était en 97.
Ouais, exactement. Je pense qu'on peut prendre un bouillon. Ça part dans tous les sens. Après, l'implication que peuvent avoir les joueurs quand on en prend un, quand on en prend deux, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Surtout en Angleterre, on voit des réactions des 3-0, 0-3 il y a pas longtemps. Ça finit en 3-3 ou 4-3. On le voit assez souvent. Là, il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport au jeu de Chelsea qui n'est plus aussi flamboyant qu'au début. Sarri a eu des débuts qui étaient pour moi très importants et très bons. Et très vite, ça s'est peut-être un petit peu retourné contre lui. Et je sais pas si...
Pas les joueurs.
Non, mais c'est-à-dire que les joueurs sont quand même les acteurs au milieu parce qu'on s'ennuie aujourd'hui à voir. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'il y avait le fameux boring game avec qui nous sortait ça à une époque. C'était le jeu de
Arsenal,
voilà. Et aujourd'hui, je pense que je m'ennuie vraiment à voir Chelsea, oui. Alors que c'était pas le cas il y a encore en début de saison. Hein, je pense sous le contrôle de Salim qui est là. C'est qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 6-7 mois? C'est enfin même pas 3-4 mois. C'est quand même hallucinant.
Justement, Salim, parce qu'en plus, il dit « je n'ai pas vu mon football ».
Le problème, c'est que c'est quand même un jeu, ce qu'il demande Mauricio Sarri, c'est un jeu très énergivore, quand même, ce qu'il demande régulièrement. On l'a vu en début de saison.
C'est pas le seul entraîneur, on disait ça de Simeone, il y en a d'autres
bien
qui,
sûr,
effectivement,
bien sûr, mais totalement. Donc, énergivore, certes. Le problème, c'est que si c'est du énergivore et qu'à la fin, vous gagnez, c'est bête, mais et comme vous avez pris l'exemple de Diego Simeone, ça gagne donc régulièrement, et ben bizarrement, les joueurs vous suivent, continuent de vous suivre, etc. Lorsque vous demandez à des joueurs d'être énergivores dans la manière de faire, donc, pas forcément à votre poste, je prends le cas de N'Golo Kanté, je prends le cas d'Eden Hazard, même ça a changé, hein, puisqu'il est repassé à gauche désormais, Gonzalo Higuain est en pointe, et d'autres joueurs également, avec des joueurs qui sont aussi, on peut le dire quand même malgré tout, à un niveau en dessous par rapport à ce qu'on a pu connaître cette dernière saison, ben au final, ça donne des joueurs qui peuvent réussir à domicile et qui vont continuer de réussir à domicile, il n'y a pas de souci, mais je vous rappelle que sur les deux derniers matchs à l'extérieur, c'est 10 buts encaissés.
Exactement.
6.
4 à Bournemouth.
4 à Bournemouth. Également, il y a
des vrais cartons.
Donc, vous avez cela, et puis, au final, est-ce que vous avez les joueurs qu'il faut pour, au final, mettre en place ce jeu en question? Il y a une question, Sarri a voulu amener son Jorginho. Est-ce que Jorginho, finalement, très bien adapté à la Première Ligue? Ça fait partie de ces questions qu'on peut évoquer. La défense centrale, quand il y a quelques années, vous aviez un Terry Cahill, c'était il n'y a pas si longtemps, au final, et qu'aujourd'hui, vous avez David Luiz et Rudiger en défense centrale, est-ce que ces joueurs sont de la qualité d'un Chelsea? J'entends parler d'un grand club. Malheureusement, il faut aussi s'appuyer peut-être sur les individualités qu'a aussi aujourd'hui Sarri.
Philippe, qu'est-ce qui se passe à Chelsea?
Même Guardiola a eu beaucoup de mal à s'habituer au football anglais. Et je pense que Mauricio Sarri, qui paradoxalement est beaucoup plus âgé, mais qui a beaucoup moins d'expérience, parce qu'il a entraîné très peu au niveau.
Oui, qui vient d'arriver, qui est arrivé durant l'été.
Tout à fait. Non, pour l'Angleterre, mais même en Italie, il a fait quelques saisons de Serie A, pas plus. Et par contre, c'est un entraîneur qui a montré des choses remarquables. C'est un formidable entraîneur, comme souvent les Italiens. Par contre, en capacité d'adaptation, je suis pas certain qu'il ait complètement saisi pourquoi ça marchait au début de saison. Chelsea a très bien marché au tout début, mais j'ai l'impression qu'il a effectivement peut-être bouffé beaucoup d'énergie, peut-être pas complètement compris qu'à un moment ça allait devenir dur, qu'il y avait l'hiver, qu'il y avait plein de choses à passer.
Le Boxing Day.
Et on s'aperçoit que cette équipe a complètement disparu. Là, au point de vue mentalité, état d'esprit, elle est complètement disparue.
Autant de buts, c'est incroyable.
Elle est complètement disparue. Elle est plus du tout dans le circuit. Elle s'en sort à peu près à domicile. Et encore, c'est pas...
Il y avait un carton la semaine dernière, mais effectivement, on passe d'un 4-0 à un 5-1, puis un 6-0.
L'équipe a perdu les pédales et il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe, qui est pas du même ordre de ce qui se passait avec Conte, qui a fini un peu rejeté par l'effectif. Bon, tout ça était devenu difficile pour lui. Là, j'ai pas l'impression que ça a du même registre. J'ai l'impression que Sarri est un type assez remarquable et reconnu par ses joueurs, mais qu'il y a un truc qui a complètement dérapé, là.
Oui, et pour rebondir sur vos propos, vous évoquiez le 5-0 la semaine passée face à Newcastle. C'est vrai que là, on se disait, Hazard et Gwen. Ça marche. Fonctionne, effectivement. Hazard qui repart sur son côté gauche, un nombre de dribbles réussis, Higuain, deux buts magnifiques de la part de l'attaquant. J'avoue, je reconnais humblement être tombé dans le piège en me disant, à ce Chelsea-là,
c'est
donne une impression.
On l'a dit, c'est peut-être reparti.
Donne une impression, je le reconnais. Et ben, au final, force est de constater que face au petit, au final, ça passe, hein, globalement, mm-hmm. à domicile. Mais finalement, est-ce que Chelsea, alors à voir, il reste là encore 12 journées, est-ce que Chelsea n'est pas devenu le nouvel Arsenal?
Exactement, et c'est ce que Jamie Carragher disait, l'ancien joueur des Reds. Il disait, en gros, en 6 mois, Maurizio Sarri, il a fait de Chelsea un nouveau Arsenal, c'est-à-dire une équipe joueuse, mais un peu tendre. Et d'ailleurs, on voit, elle manque même peut-être d'intelligence, entre guillemets, parce que c'est une équipe qui soit gagne, soit perd, qui sait pas faire des matchs nuls, cette équipe de Chelsea.
Parce que intelligence, vous avez à la base quand même des joueurs qui le sont. Eden Hazard, Jorginho, normalement, ils savent à la base, enfin, ils sont effectivement, savent s'adapter a priori. Après, c'est tout simplement, et Philippe l'a très bien dit, côté énergie, côté aussi, Sarri, est-ce qu'il s'est bien adapté à cette première ligue? Est-ce qu'il a compris que depuis la fin du mois de décembre, et donc cette période du Boxing Day, on enchaîne quasiment tous les 3 jours, on s'arrête pas? Et ben ça, forcément, les joueurs le payent.
Et le fait de se priver de N'Golo Kanté à la récupération, mais à son poste de prédilection, ça a marché au
début de saison.
Il marquait beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment son rôle, et est-ce que sur toute une saison, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser? Il va certainement falloir se poser la question du côté des Blues.
Un entraîneur, c'est l'équipe entière dont il doit s'occuper. Moi aussi, je pense que Kanté est meilleur en base de milieu de terrain, mais si vous mettez Jorginho à ce poste-là où il est relativement lent, mais par contre il a une qualité de passe formidable, ça paraît plus logique de le mettre là et de laisser Kanté aller gambader. Si vous faites l'inverse, c'est bien pire, hein. Faut le dire tout de suite. Non, mais faut le dire tout de suite.
Ouais,
donc un entraîneur, il fait pas n'importe quoi.
Bien sûr.
Il y a simplement que sur la durée, effectivement, même Kanté, il s'y perd. Là, il a perdu son football aussi, lui.
Et alors, justement, sur la durée, qu'est-ce qu'il peut arriver à Maurizio Sarri? Quel avenir l'attend? Quelle peut être la patience d'Abramovic? Va-t-il rester? Donc, la question est celle-là et elle lui a été posée.
Oh, I don't know.
Oh, vous savez, je ne sais vraiment pas.
I don't know.
Je ne sais pas, vous devez demander ça au club. Je suis inquiet, surtout au sujet de mon équipe. Je suis inquiet par notre performance, mais mon poste est toujours à risque, vous savez. Je ne suis pas inquiet, vous devez demander ça au club.
Alors qu'il soit inquiet ou pas, ça changera pas grand-chose, mais en tout cas, est-ce que on peut décider de se séparer de lui dès maintenant, Salim?
Il reste 12 journées, Chelsea est 6e à 1 point de la 4e place.
Ouais, enfin, mais ils sont derrière Arsenal là,
c'est ça, United est à 51, Arsenal à 50, Chelsea 50. S'il y avait 10 points d'écart, je vous aurais dit oui, effectivement, faut peut-être faire quelque chose.
Il y a 10 points d'écart avec Tottenham, le 3e.
Effectivement, mais la 4e place c'est la même que la 3e. Pour le coup, vous êtes qualifié directement pour la Champions la saison prochaine. Bah aujourd'hui, attendons ce qui se passe aussi en Europa League. Alors même si l'Europa League n'est pas l'objectif majeur de cette équipe, il y a aussi une finale de Coupe de la Ligue qui est loin d'être anecdotique au final, puisque c'est face à City.
Exactement.
Quand même dans deux semaines à peine. Ouais. Si vous gagnez cette coupe, alors même si c'est pas l'objectif de début de saison évidemment, mais là vous montrerez que j'ai réussi à faire tourner la tête des joueurs, à leur faire comprendre,
mais il faut y croire. Quand on a pris 6-0 et on rejoint la même contre
l'équipe. Je pense aussi que les joueurs ont quand même un certain mental et ont un certain ego quand même.
Quand on en prend 6, on s'en rappelle quand même. Voilà. 15 jours après, on y pense encore.
Mais les matchs sont toujours différents. Mais ce qui complique la donne aussi, c'est que
20 ans après, je me rappelle encore. C'est dur.
Et depuis 97,
ils
sont
7-0
à Lyon.
C'est terrible. 7-0 à la mi-temps, je précise.
Ce qui change la donne, c'est que
j'ai touché 8 fois le ballon pour faire le centre. C'est tout.
Ce qui change, c'est que Roman Abramovich n'est pas en Angleterre.
C'est vrai en plus.
Il n'est pas là.
Ouais.
Roman,
il est moins présent,
il
n'est
pas là, il n'est pas présent. Le club est dirigé par d'autres personnes. Et depuis pas mal d'années, ces autres personnes sont en conflit direct avec les entraîneurs systématiquement. C'est une histoire qui va peut-être mal finir, mais à savoir quand, c'est assez délicat. L'état du club ne permet pas de répondre très facilement.
En tout cas, c'est Manchester City qui est en état de grâce, qui aligne les buts, hein, notamment eh bien grâce à son buteur, le Kun Agüero, d'ailleurs désigné homme du match, et a raison. Il a marqué encore un triplé, ce joueur, Antoine.
Oui, ça fait 17 buts pour lui en Première Ligue, à égalité avec Mohamed Salah, c'est dire, ça vous pose un homme. C'est son deuxième triplé en une semaine, rien que ça. Il avait d'ailleurs commencé sa saison par...
C'est pas contre Huddersfield, c'est Arsenal. Arsenal et non, mais Chelsea, ça, les sous-deux, s'il te plaît.
Ça montre un joueur qui est particulièrement en confiance et qui est sur les bases de sa meilleure saison en 2014-2015, où il avait inscrit 26 buts. Et puis, c'est l'homme important de Guardiola. Il faut aussi rappeler que Manchester City, depuis début janvier, c'est 42 buts inscrits. C'est une machine.
Son triplé, c'est le 11e qu'il marque en Première Ligue. Il a rejoint Alan Shearer, il est égalité, et surtout meilleur buteur du club de City, puisqu'il a marqué 160 buts de l'histoire en 229 matchs, 7 saisons et demie quand même à City. Mm-hmm. Ce Kun Agüero, c'est vraiment devenu la machine à but de Pep Guardiola.
Oui, le truc, c'est, Marc le disait, oui. Rappelez-vous, lorsque Guardiola est arrivé, il y avait ces dissensions, il y avait Gabriel Jesus qui était pas si loin, qui était encore au Brésil, qui allait arriver quelques mois plus tard, et on se posait derrière la question en disant, peut-être que ça va pas du tout matcher, et peut-être que Sergio Agüero va être sur le départ 6 mois ou 1 an après. Au final, comme quoi, il peut y avoir aussi, souvent on parle d'un Guardiola qui reste campé sur ses positions, qui ne bouge pas. On l'a vu d'ailleurs par le passé sur certains joueurs, je pense au cas Samuel Eto'o par exemple, à l'époque au Barça, mais là pour le coup non, avec Agüero il a quand même bougé de position, il a changé de position, et au final il s'est adapté, ou plutôt l'Argentin s'est aussi adapté aux Catalans, et au final ça matche bien.
Rien de mieux de mettre un Brésilien pour aiguillonner un Argentin.
Oui, et puis, peut-être, mais surtout Guardiola aussi, je pense, enfin j'ose le penser, un pragmatique. Quand vous avez l'un des meilleurs attaquants du monde, parce qu'il faut le rappeler, parfois on l'oublie, que Agüero c'est vraiment l'un des meilleurs attaquants du monde.
On a l'impression que finalement quand on parle des meilleurs buteurs dans les championnats européen, on l'oublie à Guerreau. Ouais.
Non.
Rarement.
Parce qu'il a peut-être pas le côté spectaculaire. Il a peut-être pas eu gagné les très grands titres.
Il a gagné plusieurs fois une Première Ligue.
Mais c'est vrai quand on me parle sans arrêt d'Higuain et qu'on le compare à Agüero, j'hésite pas une demi-seconde. Je prends Agüero tout de suite. Mais beaucoup, je sais que beaucoup d'entraîneurs auraient pris Higuain.
Oui, mais il y a aussi une période où quand il arrive à City, on le prend pour un mercenaire, parce que City est en train de relancer une machine, de relancer quelque chose.
Mm-hmm. C'était il y a 7 ans.
Mais il y a 7 ans, il y avait une époque où on balançait des choses, où on disait, mais certains joueurs, ils sont vite catalogués, c'est pas un joueur qui va se mettre à l'avant, qui va faire... Oui, c'est sûr que moi aussi, entre Higuain et Agüero, après Agüero, ce qu'il dessert, c'est ce nombre de blessures, qui malheureusement, dans les grands moments, il est souvent blessé, et ça ne l'aide pas forcément, et c'est un petit peu dommage, mais ça reste un buteur redoutable.
En tout cas, dans sa belle histoire, rappelons que le Kun Agüero, qu'on appelait encore Sergio Agüero à l'époque, en première division Argentine, quand il y fait ses premiers pas, il bat un record que détenait Maradona. Il apparaîtra à 15 ans et 35 jours. C'était le 5 juillet 2003 qu'il a fait ses premiers pas de professionnel en première ligue, en première division, Argentine. Comme quoi, ça pouvait aussi être un beau signe. Alors, on a eu aussi, et Liverpool. Ouais. Liverpool, alors, ils ont un match en moins, rappelons-le. Mmh. Mmh. Mais évidemment, c'est le moment de ne rien lâcher, comme on dit chez les footballeurs. Et c'est une victoire qui tombe au très bon moment. Et notamment Salah qui retrouve le chemin des buts, qui a perdu sa barbe apparemment en route.
Exactement, c'est ça. Il s'est rasé, Mohamed Salah.
Ouais, il s'est mis 3-0. Sur les réseaux sociaux sans barbe.
Exactement,
pas
3-0 face à Bournemouth, avec surtout un trio très intéressant, parce que Firmino, qui n'a pas marqué dans cette partie, mais qui a été très bon, qui a permis donc à Sadio Mané et Mohamed Salah de marquer. Et puis surtout, Liverpool lui était attendu après une rencontre vraiment décevante face à West Ham, juste avant, quelques jours avant, où ils avaient été dominés, ils avaient marqué un but hors-jeu, mais West Ham a été dominateur. J'étais content pour le coup.
Oui, on sait.
Mais c'est vrai que Liverpool avait été dominé, donc on attendait une réaction. La réaction était plutôt bonne.
Ils avaient aligné deux matchs nuls à un mauvais moment, qu'ils auraient pu creuser l'écart.
Là où City avait enchaîné deux victoires, exact. Donc City revenait bien. Après, surtout, le moment est très important, car vous êtes à égalité avec City. Je rappelle que le prochain match de Liverpool, c'est dans 2 semaines face à United. Et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que pour United, en plus, on sera entre les deux matchs face au Paris Saint-Germain. Donc United ne peut pas non plus lâcher, puisque vous êtes dans une période où United cherche potentiellement la 4e place en championnat. Donc United va mettre son équipe type. United va encore une fois être attendu dans un grand rendez-vous, et pour l'instant United a plutôt répondu présent. Et Liverpool, et ben là c'est l'un de ces trois gros tests, parce que Liverpool, dans les gros, il n'y a plus que United, Tottenham et Chelsea à jouer, là où City a 4 gros. Donc c'est là où Liverpool est attendu. Si Liverpool réussit un bon résultat, j'entends par bon résultat une victoire, ça sera un signe très important envoyé à City. Mais il faut gagner pour ça.
Mm-hmm. Il faut gagner. La différence est ténue finalement, parce que l'instant, en empilant les buts, Kun Agüero et l'équipe dans son ensemble, c'est eux qui sont devant.
10 buts d'avance.
Avec 10 buts d'avance et un match en plus.
Oui, ils ont 3 points. Enfin, potentiellement Liverpool évidemment peut reprendre 3 points d'avance, mais la pression est là, le duel est là, et c'est un duel à 3 d'ailleurs, parce que Tottenham surveille ça du coin de l'œil, discrètement, en se disant tiens, on sait jamais si les deux s'entretuent, et s'ils se marquent, on sait jamais.
Si je récupère mes attaquants,
sur un malentendu.
Sachant que Tottenham doit affronter Liverpool et City, donc pour le coup, Tottenham pourra prendre des points, pourquoi pas.
Tout le monde m'oublie, Tottenham est à l'abri complet.
Mais ils sont toujours là.
Tout le monde considère qu'il est totalement impossible qu'il.
Et Hugo Lloris arrête des pénaltys maintenant, donc tout est possible.
Et Sissoko qui est dans une super forme.
Non, mais Liverpool est loin d'être champion quand on voit ce que c'est fait en Manchester City, c'est évident.
Oui. Antoine, un petit mot sur ce classement. On en reste
sur le classement pour simplement dire qu'il y a vraiment deux groupes bien distincts. Il y a un groupe pour la première place avec Manchester City, Liverpool, tous les deux à 65 points. Un match en plus quand même pour les Citizens. C'est puis Tottenham qui est à 5 longueurs. Et puis quatrième Manchester United, 51 points. Arsenal, Chelsea, 50. Bref, ce sera chaud à tous les étages à ce niveau-là.
Ouais, ça continue parce qu'après, le septième est extrêmement loin. Oula, ouais. À 38 points, donc effectivement, mais le Big Six se dispute.
Et je rappelle que la septième place devient très importante aussi parce qu'elle peut devenir européenne. Donc là aussi, c'est un championnat, entre guillemets, c'est l'autre championnat au final. La septième place pourra devenir européenne en cas de victoire en Coupe des gros.
Ben voilà, comme ça, ça manque pas de suspense et c'est bon pour Radio Foot.
C'est vraiment la caca, la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci mesdames.
Et voilà la musique qui fait rentrer les joueurs sur la pelouse du Parc des Princes.
La musique préférée de Marc Libra.
Je préfère un jump quand même.
Voilà, il préfère sauter, Marc, sur une autre musique du côté du Vélodrome. En tout cas, la catastrophe, la cata, comme disaient ces petits personnages sur cette musique, eh bien, la cata, c'est pour le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, l'équipe écrivait samedi, le plus important, c'est de ne pas se blesser. Eh bien non, les Parisiens, une fois de plus, exposés au mauvais œil, alors que se profilent les matchs à élimination directe après l'affaire Rabiot, après Verratti, après Neymar. Edinson Cavani et Thomas Meunier ont allongé donc la liste des joueurs forfaits pour le match aller à Old Trafford. L'avenir s'assombrit pour l'entraîneur du PSG. On le trouvait déjà assez nerveux, Thomas Tuchel. Eh bien, il va devoir avoir de l'imagination.
Sans Ney, peut-être sans Marco, peut-être sans Eddie, nous avons un plan D. Hein. Et je ne peux pas penser beaucoup de plans en avant. C'est super difficile. Si on joue avec notre meilleure équipe, c'est un grand défi. Si on manque beaucoup de joueurs clés, c'est plus grand. Mais à mardi, on va être prêt, je pense.
Alors, il a dit qu'il ne cherchait plus un plan B, mais un plan D.
C'est Thomas bizarre parce que lors du tirage, c'était fait. Je comprends, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Deux mois.
Pourtant,
après,
c'était sûr et certain.
Mois, mais pas de sa part, Marc. Pas de sa part.
Oui, pas de sa part.
L'ironie du Marseillais.
Pas de, non, je charrie un peu.
Marc, Edinson Cavani, c'est vraiment en tirant son pénalty qu'il se blesse.
Ah oui, c'est clair. Il met tout ce qu'il a, il calcule rien, et puis un petit peu de fragilité, un petit peu de fatigue, et puis ça lâche.
Tire un pénalty.
Non, mais c'est à ce moment-là, ça se commande pas à ce moment-là.
C'est la première fois qu'on se blesse sur une frappe.
Ouais,
c'est classique.
Non, bien sûr.
Ça vous est déjà arrivé, Marc, ça?
Alors moi j'ai jamais eu de soucis au niveau des insertions comme ça. Moi, j'ai beaucoup frappé très fort au pas. Je me suis jamais blessé comme ça. Jamais de claquage durant toute ma carrière. D'autres blessures, mais jamais ce genre de choses. Donc voilà. Après, c'est voilà. Mais ce qui est important, c'est que la plupart du temps, et le discours du PSG depuis de nombreuses semaines, c'est il faut les préserver, il faut faire attention. Dans l'interview, on en parlait sur une chaîne TF1, Téléfoot, où ils expliquent que le coach nous dit on écoute bien les joueurs pour savoir leurs besoins, leurs envies. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de les écouter parce qu'ils ont tous chacun leur petit préparateur, leurs petits soucis, leurs petits égos. Je pense qu'il faut leur dire aujourd'hui, le conditionnement, vous savez qu'en février, il faut que vous soyez bon. Le championnat, normalement, allez, en octobre, c'est réglé. Maintenant, vous allez... Comment ça se fait qu'à ce moment donné de la saison, tout à l'heure je charriais un petit peu, mais pourquoi il se blesse, pourquoi il y a tous ces soucis, pourquoi il y a tous ces problèmes, je comprends pas. C'est pour moi irréel ou presque. On prend l'exemple, Salim va confirmer, Manchester United, avec le nouveau coach, c'est une machine qui ne s'arrête plus. Les joueurs, sur un plan mental, sont au-dessus des joueurs du PSG, mais Pogba, il a joué. Pourtant, Pogba, c'est lui qui fait tourner United aujourd'hui. Et il a joué, il est sorti à la 73e. On ne s'est pas dit, non mais attendez, alors oui, certains joueurs ont tourné, ils les ont mis sur le côté, mais par contre, Pogba, qui est la star, le numéro 1, il a joué. Et quand il sort, je pense qu'il serait resté encore pour pouvoir jouer. On voit des sourires sur les visages. On ne dit pas, non mais il ne faut pas, nous on réfléchit, attendez, on met Mbappé là. On met, mais c'est, enfin, c'est, à un moment donné, ce sont des compétiteurs hors normes. S'ils se pètent à une échéance importante comme chaque fois, il faut se poser les bonnes questions, quoi.
Manchester United qui a gagné au cours du week-end par 3-0, mais évidemment, on y reviendra très largement demain sur cette équipe et ce club de Manchester United. Philippe, est-ce que c'est dans les têtes alors que finalement surgit le doute et peut-être la blessure?
Bon, Thomas Tuchel, il vient de l'étranger, il vient de l'Allemagne, il connaît le haut niveau. Lui n'a il n'est pas soupçonnable d'être touché par cet environnement. Mais en France, il se passe quelque chose d'assez particulier. Je sais bien qu'en France, on aime bien expliquer au monde entier ce qu'il faut faire, mais parfois c'est un petit peu gênant quand on est sur des matières qu'on ne connaît pas. Parce que je suis désolé, le haut niveau en football de club, on le connaît pas. On a gagné deux coupes d'Europe, on n'existe pas. Pour l'instant, on n'existe pas. On essaye d'exister. Ponctuellement, on a des clubs qui y arrivent, mais on n'existe pas. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a en France des espèces d'explications. On sait mieux que les autres. On sait mieux qu'il faut mettre les joueurs dans le formol, qu'il faut même pas qu'ils s'entraînent, pas descendre leur escalier non plus, peut-être. Non, mais on sait plus. Il y a un moment, c'est du délire. On est dans un délire total. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'ils sont blessés. Meunier, c'est un accident total.
Oui, on l'a vu.
Voilà. Cavani, ça aurait pu arriver à l'entraînement. Évidemment que c'est pas commandité. Il n'y a pas un complot. C'est pas commandité par des choses qui vont pas. Mais il y a quand même un espèce d'environnement qui est étrange. On peut pas jouer le samedi, on est obligé de mettre une équipe B pour jouer Bordeaux. Je comprends pas.
Philippe, justement, vous parlez et on parle
parce
beaucoup.
Parce que le foot, c'est se préparer, c'est des automatismes tout le temps.
Et donc
c'est
jouer le plus possible.
Mais oui, pas tout le temps. On peut mettre Mbappé une fois. Je veux bien qu'il soit une fois sur la touche. C'était contre Bordeaux, pourquoi pas. Mais pas des équipes B. Qu'est-ce que c'est que ces raisonnements absurdes? Et à l'arrivée, on évite quelle blessure? Aucune.
Philippe,
on en a plus que les autres.
Ce qui est surprenant, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup ce débat autour du PSG, alors que Lyon qui joue, alors certes dans une semaine et pas demain, mais Lyon, apparemment, il n'y a pas autant une telle hécatombe de ce côté-là pour une équipe qui, elle aussi, est française et distribuée.
Non, mais après, il y a des phénomènes de malchance. Je veux dire, Neymar et ses blessés.
Pour vous, c'est la malchance?
Il y a une part de malchance, bien sûr. Mais il n'empêche que je trouve que l'approche n'est pas bonne. L'approche, c'est pas haut niveau. Le haut niveau, c'est de la préparation optimale pour être capable toutes les semaines d'être au haut niveau.
Et pas se préserver, donc.
Et tout, haut niveau. Toutes les semaines, le haut niveau, c'est toutes les semaines. C'est pas se dire en octobre, comme dit Marc, le titre, bon, globalement, fin octobre, on sait qu'on est à peu près champion. Bon, bah, maintenant, les gars, bon, alors, cette année, le PSG a une vraie saison parce qu'ils ont eu une vraie qualification à obtenir difficilement et qu'ils ont brillamment obtenu sur la fin dans leur
premier
groupe.
Du groupe.
Donc,
disons
qu'ils ont été occupés jusqu'à mi-décembre. OK. Et à partir de la mi-décembre, dit bon, là, maintenant, rendez-vous le 12 février. Non, c'est pas ça le foot.
Résultat, ils sont éliminés en Coupe de la Ligue.
C'est pas ça.
Finalement, il y a un exemple qui va dans ce sens-là. C'est presque United qui, au final, a fait tourner sur ce dernier match, j'entends, face à Fulham, avec 5 joueurs qui, potentiellement, pouvaient être titulaires et qui n'ont pas joué, qui étaient sur le banc, voire hors du groupe, et qui seront là face au Paris Saint-Germain. Mais sinon, les autres équipes qui vont jouer en Champions League ce milieu de semaine, Tottenham, Dortmund, le Real, l'Ajax même, aux Pays-Bas, aucune de ces équipes n'a fait tourner. Donc, comme Philippe l'a très bien dit, c'est vrai qu'en France, on a une manière de penser les choses. D'ailleurs, on observera au final ce que fait Lyon peut-être le week-end prochain avant son match face à Barcelone. C'est vrai qu'en France, on se dit, attention les gars, il y a la Champions, on se préserve. Alors, je peux comprendre qu'il faut faire attention, Marc.
Oui, faisant trop attention que peut-être que tu te blesses.
Mais alors que tous les autres, le Real qui doit jouer face à l'Atlético, Tottenham qui avait un match important face à l'Est, personne ne fait tourner. Alors que c'était des matchs clés aussi. Il y a peut-être une autre approche, effectivement.
Finalement, la crise de novembre du Paris Saint-Germain d'il y a quelques années, maintenant, elle a lieu en février.
Mais c'est un réel problème pour Paris aujourd'hui. Mais
est-ce que c'est pas dû aussi au fait que Paris, justement, joue le début de championnat à fond pour prendre, pour montrer que.
Ouais, ils jouent pas à fond, ils jouent normal, ils jouent pas à fond.
Ils ont tellement de points d'avance, on se dit qu'ils ont quand même joué les matchs avec pas mal d'implications. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une décompression à cette période-là de l'année?
Je pense que c'est l'inverse. C'est en étant toutes les semaines dans le haut niveau, et les Anglais là-dessus sont un modèle parce qu'ils sont obligés, de par la qualité des adversaires, ils sont obligés d'y aller. La Liga encore plus. La Liga, excusez-moi, il y a 10 équipes qui, dans les 20 dernières années, ont fait des finales de Coupe d'Europe. Il y a 10 clubs. Mm-hmm. Bon, évidemment, du coup, quand on joue Valence, quand on se repose pas, on joue.
Séville, bien
sûr. On est obligé de jouer sérieusement. Est-ce que ça empêche les Espagnols de gagner les Coupes d'Europe? Évidemment pas. Au contraire, ça les prépare semaine après semaine à jouer des matchs de haut niveau. Je pense que le PSG n'en joue pas assez, ou en tout cas, dans sa tête, s'imagine que c'est des petits matchs. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est pas bon.
Alors, l'OL qui jouera dans 9 jours, si je me trompe pas, en tout cas, cet OL qui a perdu face à Nice, bon, bah, c'était l'équipe A, hein, une équipe qui a joué face à celle de Patrick Vieira.
A plus.
Des joueurs de Nice qui ont su surtout préserver le résultat parce qu'ils ont marqué leur but très très tôt. Et finalement, bah, les Lyonnais ont enregistré une défaite alors qu'ils ont eu un nombre d'occasions de but incroyables. En face, il y avait un excellent Benitez. En tout cas, le gardien Anthony Lopez a donné quand même un petit coup, un petit tacle à ces joueurs offensifs.
Dans le jeu, qu'est-ce qu'on a à se reprocher? À part qu'on n'a pas été efficace offensivement, on a les opportunités pour marquer. C'est vrai que le gardien d'en face a fait quelques beaux arrêts, mais voilà, on doit être plus tueur, plus agressif devant le but et marquer des buts tout simplement.
Marquer des buts tout simplement, Marc. Alors tout simplement, évidemment, ils ont eu 26 occasions, je crois.
Non, peut-être pas quand même.
26 tirs, pardon. Oui, 26 tirs, ouais. Excusez-moi. 26
non,
tirs
ont,
et...
Ils auraient dû gagner, évidemment.
Mais après, ça reste l'OL qu'on connaît, qui est capable de choses magnifiques. Voilà. Et puis après, sur un certain match, le prendre pas forcément à la légère, mais de se dire que ben, finalement, il y a un joueur qui fait le décalage. Je lui donne pas, je vais essayer de rentrer, je vais tirer. Que peut-être, ben là, je vais pas forcément sauter, faire l'effort 2 mètres pour me replacer. C'est ces genres de petits détails qui a niveau. Ou alors, Ndombele qui va faire une faute grossière dans la surface de réparation où il n'y a pas la place. Mmh. Alors que le joueur est entre 4 voire 5 Lyonnais, donc il n'y a pas moyen de faire faute. Malheureusement, il y a faute. Ces petits détails-là, à haut niveau, font la différence qu'on rencontre Nice ou une grande équipe de Ligue des Champions. Et malheureusement, c'est ce qu'on reproche très souvent à Lyon. Après, vous avez la question, est-ce que c'est la faute, hier encore une fois, de dire c'est le coach Genesio ou c'est la faute des joueurs? Parce que souvent, quand il y a une défaite, c'est toujours Genesio. Mmh. La semaine dernière, j'ai pas entendu super Genesio parce qu'on a battu Paris.
Si, nous on l'a dit dans Radio Foot.
Mais il y a des endroits où on le dit pas, on dit c'est la faute de Genesio. Voilà.
C'est pas la faute de Genesio.
Non, franchement, hier, autant parfois on a vu un Lyon indigne cette semaine, enfin indigne de son niveau, de ce qu'il est capable de faire.
Mm-hmm. Ouais,
ils ont perdu un nombre de matchs considérables cette saison en Ligue 1 de manière anormale. Autant hier, bon, hier, voilà, c'est les aléas. Ils ont été d'une inefficacité totale avec un Depay qui était franchement pas à son meilleur niveau. Il n'était même pas à son niveau tout court. Et du coup, évidemment, ça conditionne la finition des actions. Mais sinon, en dehors de ça, Lyon a été conforme au dernier match, qui était quand même plutôt positif. Sauf que bon, quand on n'est pas foutu de marquer un but, évidemment, ça devient compliqué de gagner.
Antoine ?
Bon, après, l'opération, elle n'est pas si catastrophique que ça. Lyon reste sur le podium.
Marseille revient. Marseille revient, attention.
Montpellier, oui, mais si Montpellier gagne son prochain match, parce que les Montpellierens ont un match en retard, ils seront à 3
pareil,
points.
Hein.
Ça reste.
Non, mais deuxième et troisième, c'est pas
exactement
pareil. Il ne faut pas prendre l'habitude dans notre tête de se dire, ah ben, le troisième sera qualifié d'office. Ça dépend quand même du vainqueur de l'Europa League.
Exactement.
Il y a des chances de ne pas être français, ça, on est à peu près certain. Mais ça va être, si c'est, il faut que ce soit un qualifié pour la Ligue des Champions qui gagne l'Europa League pour que la troisième place soit qualificative
directement.
Ils sont à 6 points
de Lille.
Et ils sont à 6 points de Lille. Donc c'est une très mauvaise opération de Lyon quand même.
Marc, quelques mots sur Marseille.
Oui.
Marseille. C'est le début d'une série.
Ça fait 2 déjà.
Deuxième victoire en tout cas de cette équipe. Donc c'était sur Dijon. Vendredi soir, et tout d'un coup Marseille se retrouve 6e au classement à 6 points de Lyon notamment, c'est-à-dire à 6 points du podium.
Ah oui, c'est quand même assez hallucinant quand on voit sur les 14 derniers matchs, il y a 2 matchs de Ligue Europa.
Sur les 2 derniers.
Ouais, bah, non, mais c'est bien.
Il y a un mieux ou pas?
Comment?
Avec Balotelli, il y a un mieux ou pas dans cette équipe?
Oui, il y a peut-être un mieux, peut-être
une
prise de conscience. Il y a un vrai neuf qui est statique, qui est un plot devant, qui est capable de marquer
6, 9,
des buts
là
pour l'instant. Mais voilà, après j'attends de voir. Mais bon, Garcia nous a dit qu'il avait démarré une série de 1, là ça fait une série de 2, donc on va pas la passe de 3. Voilà.
Salim, un petit mot sur cet OM.
J'insiste juste sur le côté Balotelli. Voilà, vous avez un joueur qui peut marquer à tout moment. Il l'a prouvé là encore.
Alors,
c'est pas le but. Il a marqué, voilà. D'autres n'arrivaient pas à le faire.
Donc
c'est ce qu'on lui demande. Écoute, c'est déjà pas mal pour l'OM.
C'est déjà pas mal. Voilà, donc l'OM, 6e de la Ligue 1. N'oubliez pas demain, rendez-vous sur notre antenne, n'est-ce pas Antoine Grenier? Vous décollez demain matin, vous allez rejoindre Hugo Moissonnier sur place pour relater ce Manchester United, Paris Saint-Germain. Et nous serons là avec David Finzel et Julien Magoire. À demain.